France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Quel est le nouveau visage du Parlement européen? Les Français ont-ils voté comme le reste de l'Europe? Nous allons décrypter les résultats des élections avec nos deux invités. Olivier Roucan, vous êtes politologue, chercheur associé au CERSA, c'est le Centre d'études et de recherche de sciences administratives. Bonjour.
Bonjour.
Et Sébastien Maillard, vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors. Bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, la même question à tous les deux. Il y a plein de faits marquants dans les résultats, que ce soit en France ou en Europe. Vous, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a marqué l'un et l'autre, Olivier Roucan?
La participation, la meilleure participation que prévue, qui confirme que il y a peut-être dans l'Europe entière, du reste, la prise de conscience sur le fait que, au niveau de l'Union européenne, la décision dans ce monde en pleine mutation, compte, et qu'il faut s'y intéresser, qu'il faut donc essayer d'exercer son pouvoir de citoyen par rapport à cette entité. Ça, c'est important. Puis deuxième remarque par rapport à ce taux de participation élevé, c'est le fait que le comportement électoral devient de plus en plus imprévisible et les hésitations sont tranchées, j'allais presque dire, dans l'urne le jour J.
Ce qui complique votre travail à vous. Sébastien Maillard, le fait marquant pour vous?
Le fait marquant, mais qui complète ce qui vient d'être dit, c'est la participation, mais la participation générale, parce que dans pratiquement tous les pays de l'Union européenne, on a eu une participation en hausse, je crois, à part l'Italie ou le Portugal, mais sinon, il n'y a pas qu'en France, en Pologne, en Allemagne, on a eu ce scrutin. Donc, qui finalement, les résultats ont été, la campagne a été assez moche, assez terne, assez ennuyeuse, et les résultats, les européennes elles-mêmes ont été pleines de surprises.
Et
je pense que ça montre aussi une certaine peur, peut-être, si on a peur des migrants, si on a peur du climat, si on a peur de Trump, si on a, y a pas de raison, ou si on a peur même que l'Union européenne se disloque, tout ça a pu inciter finalement à se dire à participer à cet exercice démocratique.
Et donc cette participation plus forte que prévu, c'est ça ce qui explique que les sondages se sont trompés, et même pas mal pour certains candidats?
Oui, je pense que c'est le fait que les électeurs, alors on avait constaté pendant toute la campagne, même si elle a été très courte et assez atone, on avait constaté justement beaucoup de changements entre les différents candidats, beaucoup d'indécisions, l'hésitation aussi entre le comportement, est-ce que je vais voter ou est-ce que je reste à la maison. Et en fait, c'est tranché en dernière heure, ce qui fait que même si les outils statistiques sont très performants et fiables, ils ne peuvent pas, j'allais presque dire, téléguider. Donc ça rappelle aussi quelque chose de très important, dans la démocratie instantanée, il faut dire ça, un sondage, c'est une photographie à l'instant T, et pas à l'instant T plus 1, même si le plus 1, ça va devenir presque une seconde ou une minute. Maintenant.
Alors ce que les études avaient vu, c'est quand même cette bipolarisation, nouvelle bipolarisation, on n'est plus droite-gauche maintenant en France, c'est entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Oui, alors, du fait de l'émiettement des oppositions. Parce que lorsque, par exemple, on ajoute les résultats de la gauche, des gauches de gouvernement, on obtient autour de 20%. Donc c'est la configuration du jeu, l'affaiblissement de certains partis qui donne cette impression, cette idée que le jeu se fait maintenant entre La République En Marche et le Rassemblement National. Mais attention pour la suite. Puis rappelons aussi que 50% ou plus de participation, ça veut dire que l'autre moitié s'est abstenue. Donc il faut se garder, à mon avis, de toute interprétation trop tranchée.
Et en Europe, Sébastien Maillard, on retrouve un peu le même genre de résultat, une forte poussée des populistes, les centristes aussi qui sont costauds, comme en France ou pas du tout?
Ça dépend des pays. Vraiment, il n'y a pas eu de tendance générale. C'est peut-être ça la difficulté après d'interpréter ces résultats, c'est que ce matin, il y a beaucoup de gagnants quand même. Il y a les Verts qui ont effectivement fait un très beau score en Allemagne, bien loin devant les sociaux-démocrates, lesquels, eux, ont bien gagné en Espagne, dans la péninsule ibérique ou aux Pays-Bas. Salvini en Italie qui vraiment montre prendre le dessus par rapport à son partenaire de coalition. Donc il n'y a pas de très généraux, à part effectivement une poussée verte qui est là quand même dans beaucoup d'endroits. On a vu aussi en France.
C'est la seule constante. Pour le reste, la lecture est vraiment compliquée. Il n'y a pas de grande ligne, quoi.
Il n'y a pas de grande ligne. Et surtout, par contre, la différence par rapport au Parlement européen sortant, c'est qu'autant là, il était un peu à l'allemande, c'est-à-dire dominé par les chrétiens démocrates et les sociaux-démocrates qui, à eux deux, avaient la majorité. Là, comme je dis, il y a plusieurs gagnants. Du coup, les centristes, les verts, se retrouvent quand même pas à jeu égal avec eux, mais quand même ont un rôle important. Et il faudra que les quatre arrivent en fait à s'entendre pour que cette Europe soit gouvernable.
Et l'extrême droite, où est-ce qu'elle fait de bons scores?
Elle fait un très bon score en Italie. Même peut-être
numéro
pas, peut-être pas autant que Salvini aurait espéré, mais quand même un très bon score. Elle fait un bon score en Hongrie, si on veut bien compter le parti de Monsieur Fidesz, de Monsieur Orban dans cette son parti Fidesz dans cette catégorie. Elle fait aussi de bons scores en Royaume-Uni avec le Brexit Party, qui là effectivement arrive en tête de ce scrutin.
Et est-ce qu'il s'agit des alliés de Marine Le Pen? Est-ce qu'elle va réussir à trouver des alliés, à s'unir, ce qu'elle cherche depuis longtemps maintenant?
Oui, alors c'est tout l'enjeu déjà qui était présent pendant la campagne, hein, avec la démonstration entre guillemets de force qu'avaient voulu donner ces partis, mais on a vu qu'en dehors de l'immigration, il y a tellement de tensions. Là en plus, il y a des jeux nationaux qui vont se jouer, donc sur la composition des groupes, ça va être très très difficile, et il y aura des intérêts de Monsieur Salvini qui pourraient éventuellement s'accorder avec ceux du Rassemblement National, mais c'est pas le cas du Fidesz en Hongrie. Que va faire le parti du Brexit de M. Farage? Donc tout ça va
grosse phase va de négociation, c'est ça,
en pensant à la suite, c'est-à-dire en pensant aussi au poids que ça pourra avoir sur la désignation de la Commission européenne,
hein,
à commencer par son président. Mais sur les tendances générales, moi je retiendrai quand même la poussée des partis nationalistes et souverainistes, hein, en nombre au sein de ce Parlement, et puis le
pas
fait
autant
que...
autant quand même que, qu'ils
espéraient.
Pas
prévu, même. Mais enfin quand même, on sera sur des groupes qui feront 117 environ pour l'extrême droite, 56 pour les nationalistes, donc il y aura plus de monde. Et puis ensuite, une remarque, bon, les conservateurs restent dominants, mais la social-démocratie ne disparaît pas et change par contre d'aire géographique et nous offre ses résultats les meilleurs au sud. Alors que la social-démocratie, même si elle ne disparaît pas dans les pays du Nord, c'était plutôt implantée dans les pays. Et donc, c'est la poussée des libéraux-démocrates dans ces aires, plutôt au Nord.
Et comment expliquez-vous le bon résultat des écologistes en France? Alors, c'est pas le meilleur score, hein, de l'histoire des Verts des européennes, mais c'est quand même pas mal du tout. Vous l'expliquez comment?
On a eu effectivement ces marches pour le climat et pendant toute la campagne. Effectivement, c'est peut-être un des faits marquants. On a vu ces jeunes descendre dans la rue les vendredis pour montrer leur attachement à cette cause. Donc la prise de conscience climatique, et pas seulement qu'en France, mais d'ailleurs justement en Allemagne, en Belgique, explique sans doute largement cette participation.
On sait si ce qu'a dit Yannick Jadot hier est vrai. Vous avez déjà des résultats qualitatifs, si ce sont les jeunes qui ont beaucoup voté pour les Verts, et qu'il dit même qu'il est quasiment le premier parti chez les jeunes.
Il semblerait qu'en effet, il y ait une mobilisation de dernière minute en faveur de ce parti, et que cela repose sur, alors, une mobilisation des jeunes, j'allais dire une abstention plus faible qu'aux autres scrutins, parce qu'il y aurait quand même une masse importante de jeunes, autour de 60%, qui sont abstenus. Mais la deuxième information, au-delà de cette forte ascension, c'est qu'elle est moins forte que d'habitude et que ça s'est produit, la mobilisation au service du parti écologiste.
Est-ce qu'il y a aussi peut-être une autre raison? Tout le monde avait mis des petites touches vertes dans son programme, plus que d'habitude en tout cas. Est-ce que finalement les électeurs n'ont pas préféré ce qu'on dit toujours, hein, l'original à la copie?
Ça a pu jouer effectivement en faveur de Yannick Jadot, et effectivement la place de Pascal Canfin est d'autant plus légitime après ce vote. On le voit effectivement aussi en Allemagne avec le succès des Grünen. En tout cas, maintenant, ça va être au sein du Parlement européen une force vraiment qui compte, et on ne pouvait pas imaginer pour le choix du prochain président de la Commission que la majorité se fasse sans les Verts.
Au sein du Parlement européen, ils resteront entre eux, pas d'alliance avec d'autres groupes possibles.
En fait,
pas ce qui est prévu.
Donc, ils peuvent, ces groupes, que ce soit les centristes, les Verts, les sociaux-démocrates et les quatre-démocrates, ont tout intérêt à s'entendre pour un programme de coalition s'ils veulent bien peser là le Parlement avec cette participation forte et plus légitime qu'avant. Et il peut donc peser, mais comme il n'y a pas vraiment de groupe dominant et écrasant par rapport aux autres, ils sont un peu condamnés à s'entendre.
J'aimerais qu'on s'arrête maintenant quand même sur la droite classique. Sébastien Maillard, elle est toujours dominante, c'est quand même toujours la droite qui va dominer le nouveau Parlement.
Oui, mais moins qu'avant. C'est-à-dire que, effectivement, la CDU a gagné en Allemagne, mais peut-être pas autant qu'autrefois. Et effectivement, le PPE, donc le Parti Populaire Européen qui fédère cette droite, avait 216 députés européens, là maintenant, ils en ont moins de 180. Donc du coup, effectivement, ils sont devant, mais pas autant devant. Et c'est pour ça qu'avec tous ces gagnants, il faut arriver à s'entendre.
Et en France, là c'est la cata, hein, non, pour la droite, Olivier Roucan.
Oui.
François-Xavier Bellamy, pire résultat de l'histoire du parti. Alors,
puisqu'on
parlait
des sondages, il avait signalé un effritement en fin de campagne, mais il n'avait pas prévu un tel revers.
Ouais. Donc c'est autour de 13%, c'était le pire score en 99, et là, ils sont largement dessous.
Hein. Oui. Et puis, ça permet aussi de relativiser tous les commentaires sur l'effondrement du Parti Socialiste, alors que la droite classique s'en sortait mieux jusqu'à présent, semblait-il. Or là, on a un effondrement et l'échec d'une stratégie, j'allais dire, fondée sur la défense de valeurs très traditionnelles, avec un profil d'un candidat assez intellectuel, qui a pu séduire, mais qui n'a pas marqué véritablement l'électorat. Donc ce qui réussit, c'est la stratégie dite de triangulation de la République en marche, et ça, c'en est la démonstration.
Un dernier mot, Olivier Roucan, j'aimerais qu'on parle quand même des Gilets jaunes. Il n'y a pas eu de traduction politique, finalement, de ce mouvement?
Alors, pas au sens partisan du terme, mais...
Pas en bulletin de vote, en tout cas.
Pas en bulletin de vote pour une liste représentée ou étiquetée Gilets jaunes. Par contre, ça a eu un impact sur la configuration du scrutin, immanquablement.
Quel impact?
Je pense que d'abord, si La République En Marche tient ce score, c'est parce qu'il y a la réaction du pouvoir à ce mouvement des Gilets jaunes en termes de débat national, en termes aussi de dépenses, hein, 15 milliards de dépensés. Donc si La République En Marche s'en sort relativement bien, c'est de ce fait. Et l'origine, ce sont les Gilets jaunes. Et ensuite, l'éclatement du vote et puis le score du Front National, du Rassemblement National, c'est alimenté quand même par ces colères.
Merci beaucoup Olivier Roucan, politologue et chercheur associé au CERSA. Et merci à vous également Sébastien Maillard, vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors.